Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Nous continuons notre parcours dans le catéchisme et en particulier donc dans tout ce qui concerne la vie publique de Jésus. Nous avions, dans une précédente discussion, la transfiguration, un avant-goût du royaume, la transfiguration, titre le catéchisme. Et nous voilà à l'article 557, la montée de Jésus à Jérusalem. Alors, on pourrait se dire, faut-il une place particulière à cet acte, la montée de Jésus à Jérusalem? Alors, il est vrai que dans l'évangile selon saint Luc, Jérusalem, d'abord, tient une place toute particulière. On va le retrouver, donc ça commence à Jérusalem, ça se termine à Jérusalem. Et les actes des apôtres qui sont attribués aussi à saint Luc, ça va aussi partir de Jérusalem. Mmh. Jérusalem va avoir une place importante, d'où les choses vont rayonner. Mmh. Donc la montée de Jésus à Jérusalem, elle n'est pas sans importance déjà de ce point de vue-là, mais ça commence au chapitre 9 dans l'évangile selon saint Luc, cette montée, ce départ à Jérusalem. Le catéchisme, donc l'article 557, cite le verset qui va montrer ce déplacement. « Or, comme approchait le temps où il devait être emporté de ce monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. » Il y a quelque chose qui se passe ici, on le sent en lisant l'évangile, et après il va y avoir, c'est à peu près sur 9 chapitres, je crois, la montée à Jérusalem. Pourquoi donc une telle importance à ce qui pourrait être un détail et qui finalement est un retournement essentiel?
Alors il faut se souvenir qu'au moment de la transfiguration, Jésus a parlé avec Moïse et Élie de son départ, de son exode littéralement à Jérusalem. Et ce départ, c'est sa passion. Et Jésus accepte ce qu'il a certainement reçu dans sa vision béatifique. On sait que la vision béatifique ne donnait pas particulièrement de concept, puisque c'est le face-à-face, mais pouvait en produire. Et c'est sans doute ce qui est arrivé dans le moment de rencontre avec Moïse et Élie. Il y a eu une sorte de descente, de redondance des parties hautes de l'âme de Jésus sur les parties, je dirais, ordinaires de sa vie comme nous. Et Jésus a vu sa passion dans son intégralité et il a été comme affermi dans sa science infuse, dans sa science pratique aussi quotidienne, acquise. Et Jésus a mis en œuvre ce qu'il avait compris à travers la transfiguration. Et l'expression est très forte parce qu'on dit que Jésus a affermi son visage, son prosopon. Ce mot est très fort parce que plus tard on dira qu'il signifie la personne elle-même. Il a affermi sa personne pour monter vers Jérusalem. Désormais, je dirais, le bras de fer a commencé. Il faut que Jésus vive comme un prophète qui périt à Jérusalem. Il est dit au Luc chapitre 13 verset 33, un peu après, « Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem ». Jésus comprend que cette parole lui est adressée et qu'il faut qu'il l'accomplisse lui-même. Jésus affermit sa face, comme on pourrait traduire plus littéralement Luc 9, 51, c'est-à-dire il accepte toutes les conséquences de l'opposition du peuple juif dans ses dirigeants contre lui. Et il accepte de défendre le royaume de Dieu et sa vérité jusqu'au bout. C'est un affermissement que Jésus va demander après à Pierre. C'est très beau de voir que le mot hystérisène de Luc 9, 51 sera repris par Jésus à propos de ce que Pierre va subir ou Satan va le cribler en Luc 22, 32. Et Jésus lui dit « Quand tu seras revenu, affermis tes frères ». C'est-à-dire que l'affermissement que lui-même vit à ce moment-là, en Luc 9,51, dans ce numéro 557 bien mis en valeur par le catéchisme de l'Église catholique, va aussi être le phare, la lumière pour Pierre, pour que lui-même, après la Passion, puisse affermir ses frères. Donc on sent bien que c'est l'Église qui se constitue dans cet affermissement. L'affermissement de l'humanité sainte de Jésus affrontant sa Passion. Sa Passion va avoir un rôle clé parce qu'il va satisfaire pour la peine du péché du monde. Ce n'est pas seulement le péché de ses contemporains ou le péché passé, mais dit Saint Jean dans la première épître de Saint Jean au chapitre 2, verset 22, pour le péché du monde entier. Et cet affermissement, c'est par rapport à cette peine, cette satisfaction que Jésus accepte pour rétablir la communion avec Dieu son Père. Nous sommes donc en face d'un moment tout à fait fort et tout à fait caractéristique, je dirais, de la vie de Jésus, la deuxième partie qui va se passer à Jérusalem au moment de la Passion et au moment de la résurrection, au moment de l'envoi des disciples. Ils vont partir de Jérusalem, évangéliser de toutes les nations faites des disciples, à commencer par Jérusalem. Et on comprend bien que là, il y a l'aspect martyrion de l'Église. On dit toujours que l'Église est une diaconie, c'est vrai, oui. Elle est un service, mais elle est aussi une martyria. C'est-à-dire qu'elle affronte l'esprit du monde. On ne peut pas être en connivence avec l'esprit du monde. Il faut accepter un jour de l'affronter. On ne peut pas toujours faire des consensus mous.
Oui, oui, oui.
Et donc Jésus, là, montre la direction de l'Église sans consensus mou, je dirais, avec l'esprit du monde. Il faut l'affronter dans la martyria, tout en conservant, bien sûr, la vérité du service. Et Jésus prend une image très humble dans ce service, puisqu'il se compare, juste après, dans le 558, à une poule.
Oui.
C'est quand même extraordinaire. Saint Augustin l'avait dit, alors de nos jours on ne peut plus l'utiliser, parce que le mot poule a des consonances très péjoratives, mais Saint Augustin disait « Jésus s'est fait gallina ». Jésus se fait poule, hein, c'est très beau dans ce passage. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. C'est malheureusement le refus de Jérusalem dans ses chefs qui refusent Jésus, dans le corps un peu des scribes, des chefs, des pharisiens qui se sont durcis contre Jésus. Mais Jésus dit qu'il est celui qui rassemble ses poussins. Donc c'est très beau. Et cet aspect maternel de la poule vis-à-vis des poussins va finalement passer de Jésus à l'Église, puisque l'Église est le corps de Jésus, l'Église est l'épouse de l'époux, et on va dire de la Vierge Marie qu'elle est mère. C'est de là, c'est de ce passage-là que l'on déduit que Marie, qui est déjà mère de Jésus, mère de l'Église, et que l'Église, du coup, va être mère à son tour. Et c'est le souvenir de ce que le pape Saint Paul VI dira pendant le Concile Vatican II, après Lumen Gentium, chapitre 8, qui parle de la Vierge Marie, il voudra ajouter que la définition de Marie, mère de l'Église, parce que la Vierge Marie est le modèle, et donc l'Église est mère, n'oublions jamais, sur le modèle de Jésus et de Marie. L'Église est mère, et Saint Jean 23, qui a débuté le Concile Vatican II, aura une encyclique tout à fait caractéristique, « Mater et magistra », mère et maîtresse.
Oui.
Et donc on voit cette troisième analogie qui se met en place. Première analogie, le corps par rapport à la tête, l'Église est corps par rapport à la tête qu'est Jésus. Deuxième analogie, époux-épouse, qu'on voit beaucoup dans l'Apocalypse, Jésus est l'époux, et l'épouse dit avec le Saint-Esprit « Viens » dans l'Apocalypse. Et saint Paul, dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, le développe beaucoup. L'Église est épouse et l'Église est mère. Ne pas oublier qu'elle est mère et une mère enseigne. Il ne faut pas faire taire l'Église.
Oui, oui.
C'est terrible quand dans les médias, taisez-vous maintenant, vous n'avez plus le droit de parler. Mais non, l'Église reste mère et maîtresse. Elle dit la vérité, même si malheureusement parfois ses enfants trébuchent et ne font pas ce que Jésus enseigne. L'Église est mère et maîtresse, il faut qu'elle continue à parler. Il faut qu'elle continue à enseigner et à dire avec Jésus même ce qui déplaît. Hein, hélas, il est demeuré caché à tes yeux le message que Jésus voulait donner, mais ce message reste d'actualité, même si parfois il n'est pas compris par nos contemporains.
Oui, c'est assez extraordinaire de partir de ce verset « Jésus a fermé sa face », de se rendre compte qu'il va demander ce même affermissement à Saint-Pierre, qu'il affermisse ses frères, et que cela nous revient jusqu'à nous tous, qui sommes l'Église, d'entrer dans cette exigence de la confrontation, mais de savoir prendre de l'Église la mère avec le désir de rassembler, l'idée de miséricorde, mais aussi le maître, magistrat, en tout cas, celle qui a qui a quelque chose à dire et on peut pas ignorer, on peut pas se dire je me passerai de l'enseignement. Oui, c'est une belle image à garder. Jésus affermit sa face et nous appelle à cet affermissement chacun.
Merci.
Merci, frère Édouard.